Bonsoir à tous. Donc, j'ai le privilège de vous présenter ce sujet des alliances de Dieu avec les hommes. Et nous sommes, avec ce sujet des alliances de Dieu avec les hommes, en face d'un sujet qui peut paraître un sujet un peu doctrinal, un peu théorique. Mais ce que j'aurai à cœur de vous communiquer ce soir, c'est que c'est un sujet qui nous permet de voir la grandeur du plan de Dieu. Et cette grandeur du plan de Dieu, elle nous éblouit, elle nous remplit d'adoration. Et puis, nous le verrons au cours des différentes alliances que nous allons décliner, elle peut aussi avoir, sur différents domaines, des conséquences, nous conduire à réfléchir à tel ou tel domaine de notre vie, de l'environnement dans lequel nous sommes. Et donc, c'est un petit peu ces deux facettes-là que nous désirons voir ce soir à travers ce sujet des alliances de Dieu avec les hommes. J'annonce d'ores et déjà que nous allons traiter sept alliances que nous trouvons dans la Bible. Peut-être que d'autres en trouveraient d'autres. Il me semble quand même que ce sont les sept qui ressortent le plus de l'Écriture. Puis sept, ça fait bien comme nombre. Et avant de rentrer dans le détail de chacune d'entre elles, nous allons donner quelques mots d'introduction sur les alliances en général. Tout d'abord, l'importance de la notion d'alliance. La Bible que j'ai entre les mains, elle est composée de deux parties. Ça, je pense que tout le monde le sait ici. Et ces parties, ça s'appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Sauf que on pourrait tout aussi bien traduire la première alliance et la nouvelle alliance. Ce serait tout à fait juste. Et d'ailleurs, il y a certaines traductions qui mettent cela au début. Donc, si la division principale de la Bible, c'est Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, Ancien Testament, Nouveau Testament, et nous verrons l'équivalence des termes dans un instant, eh bien, c'est que c'est quand même une notion fondamentale pour comprendre l'ensemble de l'Écriture sainte. Et cette notion d'alliance, ça fait partie de ces quelques notions que nous trouvons dans la Bible qui nous permettent d'embrasser l'écriture de la Genèse à l'Apocalypse. Et aujourd'hui, ce soir, nous allons tirer des textes de la Genèse, pas mal d'ailleurs, et puis nous irons jusque dans l'Apocalypse. Néanmoins, ce n'est pas une notion qui est tout à fait simple, parce que est-ce qu'il y a une alliance ou des alliances ? La question est presque résolue, puisqu'il y a deux parties de la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et puis, comme Paul le dit aux Romains, aux Israélites appartiennent les alliances. De notre côté, on trouve à plusieurs reprises dans l'Écriture, une douzaine de fois dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, l'expression « l'Alliance éternelle ». Qui tendrait plutôt à suggérer que Dieu a une alliance d'éternité. Alors, dans notre limitation, nous parlons parfois d'éternité passée, d'éternité future. Je ne suis pas certain qu'aux yeux de Dieu, ça ait grand sens. C'est que nous sommes tellement sur l'axe temporel qu'il nous est difficile de nous abstraire de cela. Et donc, on parle d'éternité passée, d'éternité future. Mais quand Dieu parle de l'alliance éternelle, est-ce relatif à l'alliance éternelle, l'éternité passée ou l'éternité future ? Difficile à le dire. Et ce très beau verset d'Hébreux 13, 21 nous rappelle que le Dieu de paix a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis dans la puissance du sang de l'Alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Et ce verset est important puisque ce verset, d'ores et déjà, nous montre qu'il y a cette Alliance éternelle et que les alliances ou l'Alliance éternelle est centrée sur Jésus-Christ et son œuvre à la croix. Je pense que beaucoup d'entre nous ce matin se sont retrouvés dans un lieu de culte, quelques-uns ici, d'autres ailleurs, et nous avons pris part au souvenir de ce sang de l'Alliance éternelle de Jésus-Christ en participant au pain et au vin. Et si nous faisons cela chaque dimanche, régulièrement, c'est bien que c'est central. Et cette centralité, nous la trouvons aussi dans ce sujet des alliances comme dans tant de sujets de l'Écriture. Quel est le sens du mot « alliance » ? Le mot hébreu, c'est le mot « berit » qui vient d'un mot qui signifie « lien », puisqu'une alliance crée un lien entre deux personnes ou deux entités. Quand les traducteurs juifs d'Alexandrie, qui ont traduit l'Ancien Testament d'hébreu en grec, puisque le grec était la langue véhiculaire de l'époque, à peu près vers moins 200 avant Jésus-Christ, ils ont traduit ce mot « bérit » en prenant le mot « diatéké », un mot qui signifie « disposition », un mot qui ne signifie pas directement « alliance ». Il y avait un autre mot grec qui était « syntéké », donc qui désignait une alliance un peu entre égaux. Et là, ils ont pris un autre mot pour traduire « bérit », et nous verrons l'importance capitale de ce détail. Ils ont pris le mot « diatéké », qui signifie plutôt une disposition volontaire de quelqu'un. Et c'est ce mot aussi qui a l'autre sens de testament. C'est pour ça qu'on parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ça a ce sens de testament parce que le testament, c'est une disposition volontaire de quelqu'un envers ses héritiers. Il y a donc d'ores et déjà, dans cette traduction et dans l'utilisation qui est faite du mot en grec, cette notion d'asymétrie sur laquelle nous reviendrons. Les recherches archéologiques menées depuis maintenant un bon nombre de décennies ont permis de découvrir des tablettes et de mettre en exergue deux catégories d'alliances différentes dans le Moyen-Orient ancien. La première catégorie, c'était la concession royale. Un souverain accorde à un sujet, en récompense d'un acte exceptionnel, une concession perpétuelle et inconditionnelle. Et, dans certains cas, les descendants du bénéficiaire ne sont admis à en profiter que s'ils imitent la fidélité de leur ancêtre qui avait reçu cette concession royale. Une deuxième catégorie d'alliance, c'est ce qu'on appelle les pactes de vassalité. Selon un protocole qui définit les relations entre un suzerain et ses vassaux, et que faisait le suzerain ? Il accordait sa protection à son vassal, et le vassal, lui devait fidélité. Et on trouve dans ces pactes, ce qui est très intéressant, des termes que l'on va trouver aussi dans les alliances bibliques. Le vassal, il est souvent appelé le fils de l'alliance. Et il doit aimer et servir son suzerain, qui lui est appelé le père. Alors, bien entendu, pas dans un sens physique, mais dans ce sens de relation. Cette relation d'alliance fait que le vassal et le suzerain sont un peu en relation comme un fils vis-à-vis de son père. Et avec ces verbes « aimer » et « servir » qui reviennent et qui prennent, bien entendu, pour nous, un relief particulier. Dans la Bible, nous trouvons un certain nombre d'alliances purement humaines. Je ne vais pas traiter de ce sujet du tout, puisque le sujet, c'est les alliances de Dieu. Mais le mot « alliance » se retrouve dans l'Ancien Testament un bon nombre de reprises entre des personnes qui rentrent volontairement dans un traité, dans une relation de partenariat. Alors, on a de nombreux exemples bibliques. Je cite celui d'Abraham et d'Abimélec en Genèse 21, tout à fait après que Isaac est né, juste avant sa ligature. Laban et Jacob, après s'être trompés mutuellement un certain nombre de fois, et finalement, avant de se séparer, ils ont fait une alliance, et elle était en témoignage entre l'un et l'autre, et ils ne devaient pas chacun bien dans son coin. Un autre cas d'alliance qui est touchant, c'est celui de Jonathan et de David. Jonathan, le fils du roi, fait alliance avec David et rentre dans cette relation aussi avec ce terme « il l'aimait comme son âme ». Et enfin, Ben-Hadad demande au roi Akab qu'il lui rend les villes que son père lui a prises et il rentre dans une relation avec Akab. Donc on voit que ces alliances, elles étaient parfois aussi un peu au détriment de la singularité du peuple d'Israël. Parfois, on trouve aussi, toujours dans ces alliances humaines, des alliances qui sont plutôt du type du pacte de vassalité, comme j'indiquais il y a un instant, demandé ou accordé. Par exemple, les Gabaonites font l'objet d'une alliance, Josué fait alliance avec eux, mais ils resteront serviteurs. Et à contrio, dans la triste période qui précède l'institution de la royauté, période troublée, les hommes de Jabès disent à Nakash l'Ammonite, fais alliance avec nous et nous te servirons. Là, volontairement, ils se mettent dans cette relation de dominer vis-à-vis de Nakash l'Ammonite, avec qui ils souhaitent faire alliance. Voilà, donc on voit ces différentes alliances humaines, mais les alliances divines sont différentes. Et là, on arrive à des points très importants à bien retenir pour comprendre ce sujet. C'est que dans ces alliances de Dieu avec l'homme, il y a cette asymétrie que les traducteurs de la Septante ont si bien comprise, puisque ce n'est pas une disposition entre égaux, c'est Dieu qui fait alliance avec l'homme. C'est Dieu qui a l'initiative. Ce n'est pas l'homme. Dieu et l'homme ne sont jamais mis sur le même plan dans les alliances. Le fait même que Dieu rentre dans une alliance avec les hommes, c'est en soi une disposition de la grâce bienveillante du Créateur envers sa créature. Parce que rien ne l'y oblige. Et dans ce cadre-là, c'est Dieu seul qui établit les stipulations. Ce n'est pas à l'homme de dire « Ah ben oui, moi je veux bien, mais dans ce cas-là, on va faire ci, moi je vais faire ça, etc. » C'est Dieu qui établit les stipulations. Et c'est pour cela que, bien souvent, les alliances, l'alliance, elle est appelée l'alliance de Dieu. Et vous trouverez, cherchez dans une concordance, et vous serez frappé de voir à combien de reprises on a cette expression « mon alliance, l'alliance de l'Éternel, l'alliance de l'Éternel ton Dieu, etc. » Donc c'est Dieu lui-même qui revendique la propriété, l'origine et la souveraineté sur son alliance. Pour autant, on trouve parfois l'expression que l'homme fait alliance envers Dieu. Mais dans ces quelques cas, ce n'est en fait qu'une réitération d'un engagement antérieur lié à une alliance qui est déjà établie. Typiquement, c'est le cas dans le livre des rois pour Jéhoïada et dans le livre d'Esdras. Tant Jéhoïada que Esdras ne font finalement que répéter que oui, ils se soumettent à l'alliance sinaïtique en l'occurrence, qui existait déjà. Jéhoïada fit une alliance entre lui et tout le peuple et le roi, qu'il serait le peuple de l'Éternel. Mais il l'était déjà, le peuple de l'Éternel. Mais comme il s'était un peu éloigné, ils se disent, ben non, on réaffirme notre alliance. Et pareil du temps d'Esdras. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une alliance ? Une alliance, il y a un certain nombre de caractéristiques qu'on va retrouver. Et il y a des garanties ou des gages. Il y a l'échange entre les contractants, souvent d'un objet, d'un sacrifice ou d'un serment. Deutéronome 29, verset 12 nous dit « Afin que tu entres dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu et dans son serment que l'Éternel ton Dieu fait aujourd'hui avec toi. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, va d'ailleurs tirer argument de cela. Et quand c'était des alliances entre un vassal et son suzerain, ou plutôt le suzerain et le vassal, eh bien, c'était l'occasion souvent d'un sacrifice ou d'un repas qui contractualisait les choses. Ça continue d'ailleurs à se faire souvent dans les affaires. Quand on a fini un gros contrat, eh bien, on va au restaurant, on mange ensemble. Donc, voir que c'est des vieilles traditions qui se perpétuent. Et puis, parfois, l'alliance était marquée d'un signe, un mémorial qui peut se répéter ou pas. Parfois, c'était un signe ponctuel, d'autres fois, c'était un signe régulier. Alors, on mettait un monceau, ou dans le cadre de l'alliance, des alliances de Dieu, on verra un certain nombre de signes. Et puis, ces alliances avaient des conséquences positives, si l'alliance était gardée, ou négatives, si elle était transgressée. Comme je l'ai dit en introduction, cette notion d'alliance, c'est une notion très englobante dans l'ensemble de la révélation de Dieu. On va parcourir la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, mais il y a d'autres thèmes qui gravitent autour, que je ne vais pas traiter ce soir, et qui sont plus ou moins connexes de cette notion d'alliance. La notion de royaume de Dieu est aussi une notion qui permet de parcourir l'Écriture du début jusqu'à la fin, de la même manière que les dispensations, le plan de la rédemption, la notion aussi de loi et de grâce, qui est d'ailleurs assez proche des alliances, j'aurai l'occasion de le mentionner en conclusion. Donc c'est juste pour vous indiquer qu'il y a forcément des recoupements dans les différentes visions, et on peut fort bien approcher le sens général de l'Écriture par l'une ou l'autre de ces notions, suivant les théologiens systématiciens, comme on appelle ça, qui font de la théologie systématique, ils approcheront plutôt sous un angle ou sous un autre angle. Mais cela me permet néanmoins de traiter rapidement d'un point, c'est que dans le monde évangélique aujourd'hui, distingue assez souvent ce qu'on appelle la théologie de l'alliance de la théologie dispensationaliste. Théologie dispensationaliste qui a vu son développement en large partie dû à John Nelson Darby au XIXe siècle et dans laquelle s'inscrivent volontiers les assemblées de frères. Théologie de l'Alliance, qui au moins en France, alors excusez-moi, j'ai moins de connexions en Suisse, mais en tout cas est assez majoritaire dans les cercles évangéliques académiques. Et je vous ai mis sur cette planche un petit peu les différences entre les deux côtés. La théologie de l'Alliance insiste sur le fait qu'il y a une alliance générale de Dieu envers l'homme à travers toute l'histoire. Tandis que la théologie dispensationaliste distingue des périodes différentes et marquées où Dieu se révèle de façon spécifique. On peut dire que la théologie de l'Alliance met l'accent sur l'unité du plan de Dieu, tandis que la théologie dispensationaliste met l'accent sur les spécificités du plan de Dieu. De la même manière, la théologie de l'Alliance voit souvent le peuple de Dieu comme continu, du début à la fin de l'histoire, alors que la théologie dispensationaliste met l'accent sur la position distincte du peuple d'Israël. De ce fait-là, la conséquence va être que la théologie de l'Alliance va faire une application plutôt allégorique des prophéties de l'Ancien Testament, alors que la théologie dispensationaliste va plutôt faire des applications littérales des prophéties de l'Ancien Testament, d'où des options plutôt amillénaristes d'un côté et prémillénaristes de l'autre. Ce qui est important à noter, c'est que les uns et les autres ont de bons arguments tirés de l'Écriture. Et ce serait une erreur funeste de prononcer l'anathème quand on est d'un côté sur la position de l'autre et réciproquement. Parce que l'Écriture me semble défendre à la fois l'un et l'autre. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails qui permettent de le justifier, mais il me semble qu'on peut à la fois retenir le fait que Dieu agit envers l'homme de façon différente à différentes périodes, mais néanmoins c'est le même Dieu qui va de la Genèse à l'Apocalypse. De la même manière, le peuple de Dieu prend des formes différentes, mais au bout du compte, tout le monde sera sauvé par la foi en Jésus-Christ, or le juste vivra de foi. Donc vous voyez, il me semble important de maintenir l'équilibre entre ces deux positions. Peut-être que nous qui avons davantage été biberonnés à la théologie dispensationaliste, nous avons besoin de regarder un petit peu quels sont les points intéressants de la théologie de l'Alliance, et à contrario, nos frères qui ont été plutôt instruits dans la théologie de l'Alliance ont peut-être à apprendre quels sont les différents éléments de la théologie dispensationnaliste qui sont tout aussi en cohérence avec la révélation de l'Écriture, et donc ne pas rentrer dans des querelles stériles. Je m'arrête là, s'il y en a qui veulent, après la réunion, prolonger le sujet, je suis à disposition. Donc nous allons voir les différentes alliances, et tout d'abord l'alliance avec Adam. Alors je vous propose cette grille de lecture systématique, nous le ferons pour les sept alliances que nous allons reprendre. Quels sont les contractants ? Quelle est la promesse, la base de l'alliance, c'est l'engagement de Dieu. Quelles sont les conditions, cette fois-ci, pour que l'homme rentre dans cette alliance. Quelle est la durée de l'alliance, la spécificité et l'importance. Et parfois, nous verrons aussi le signe et le sacrifice. Donc, la première alliance avec Adam, et je commence directement par la spécificité, c'est que quand on lit le livre de la Genèse, nous ne trouvons pas le terme « alliance » dans le chapitre 1 ni le chapitre 2 du livre de la Genèse. Il faut arriver au prophète Osée, donc bien longtemps après, le premier des petits prophètes, pour trouver cette phrase néanmoins très claire. Eux, comme Adam, ont transgressé l'alliance. Là, ils ont agi perfidement envers moi. Osée, chapitre 6, verset 7. Donc, c'est le prophète Osée qui nous permet de dire qu'effectivement, l'alliance de Dieu avec l'être humain en général, à travers Adam et Ève. L'apôtre Paul, en Romains chapitre 5, versets 12 à 21, sera très clair pour montrer que derrière Adam et Ève, il y avait toute l'humanité qui était concernée. Eh bien, cette alliance entre Dieu et l'homme en Éden était bien une alliance en tant que telle. Et quelle était la promesse de Dieu ? C'était de bénir l'homme et la femme dans le jardin. Mais comme souvent, on remarque que la promesse, finalement, elle est déjà en partie donnée. Puisque Dieu a installé Adam et Ève dans un bon jardin. Déjà, il avait fait sa part de son côté. Et mais néanmoins, il y a une condition, c'est obéir à Dieu au travers de l'interdiction de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sous peine de mort. Au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc quelle est la durée de cette alliance ? Jusqu'à la mort. Mort morale immédiate, séparation de Dieu. Mort physique, pour Adam, ça a duré 900 ans, mais au bout du compte, elle a quand même été là, et mort éternelle, la seconde mort, pour ceux qui restent sous cette alliance-là, puisque au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et donc, cette alliance, elle est très importante, parce que c'est la première alliance des œuvres. Nous verrons en conclusion, dans un essai de synthèse, que les alliances se répartissent entre les alliances d'œuvres et les alliances de grâce. Et là, c'est la première alliance d'œuvres. Alors, quelle leçon pouvons-nous en tirer? Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de signe à proprement parler de l'alliance, mais néanmoins, en Genèse 2, peu de versets après avoir donné cette interdiction à l'homme, Dieu crée la femme, la tire de l'homme, et institue le mariage. Et le livre d'Osée est un petit prophète qui est centré sur cette question de l'alliance et du mariage. Osée et Gomer, sa femme, déjà au début, vivent une relation, je ne vais pas rentrer dans les détails, d'ailleurs pas toujours facile à interpréter de ces trois premiers chapitres, mais qui sont une illustration de l'alliance entre Dieu et l'homme. Et c'est une image qu'on va retrouver à travers toute l'Écriture, que les alliances, quand Dieu rentre en alliance avec l'homme, eh bien cette alliance est comparée à un mariage. Et quand l'homme est infidèle, eh bien c'est comme si il était une femme qui est infidèle à son mariage, une épouse infidèle. Et ça, on va le retrouver plein de fois. Dans de très nombreux prophètes, on a cette image de l'alliance et du mariage. Alors, on peut en tirer, me semble-t-il, une application directe. Qu'est-ce que je suis marié avec Anne depuis 20 ans maintenant, cette année, et je porte une alliance, qui est en fait une bague qui représente le fait qu'il y a cette relation d'alliance entre nous. Alors, le mariage humain n'a pas la dissymétrie que l'alliance au sens de Dieu, bien entendu, porte en substance, puisque là, c'est une alliance de deux adultes consentants qui sont sur le même niveau. Mais il me semble que c'est important de voir que dans le livre d'Osée, comme aussi dans le livre de Malachie, où il est aussi question de cette femme de ton alliance, eh bien, Dieu parle de la relation entre l'homme et la femme sur le plan purement humain comme une relation d'alliance. On a deux textes, Proverbe 2, verset 17, « La femme qui abandonne le guide de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance de son Dieu ». C'est-à-dire que son alliance humaine, elle est même appelée l'alliance de son Dieu, parce que c'est Dieu qui a institué le mariage et qui a donc mis sa sanction positive là-dessus. Et dans le livre de Malachie, à une époque où apparemment le divorce était commencé à se répandre tristement dans le peuple d'Israël, de Juda plutôt remonté, vous dites « Pourquoi ? Parce que l'Éternel est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse envers laquelle tu as agi perfidement. Cependant, elle est ta compagne et la femme de ton alliance. » Alors, chers amis, nous sommes dans une période en 2014, on en parlait encore à midi, où malheureusement, je crois que c'est vrai en France, mais je crois que c'est vrai aussi en Suisse, les divorces se multiplient et nous en portons la peine. Et nous en sommes tristes. Mais il faut nous souvenir, et je m'adresse ici à moi-même et à tous ceux qui sont mariés, qu'un jour, on a passé une alliance au doigt de notre conjoint. Un jour, on a pris un engagement. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais en France, c'est devant le maire. Puis on lit des articles de loi. Il y a une parole donnée ce jour-là. Et cette parole donnée, nous avons à vivre en cohérence avec cela. Ce n'est pas neutre, ce n'est pas quelque chose de léger qu'on a fait. On s'est engagé, comme Dieu s'est engagé. D'où ces parallèles si frappants que nous trouvons dans l'Ancien Testament entre l'alliance que Dieu conclut et puis le mariage. Et que ce sujet des alliances, auquel nous pouvons réfléchir ce soir et peut-être si vous voulez prolonger cela plus tard, nous encourage à nous dire « Ben oui, j'ai une parole, j'ai eu un geste et je dois être cohérent jusqu'au bout et au travers des hauts et des bas. Dieu n'a pas abandonné son alliance. Alors est-ce que nous, on va l'abandonner ?» La deuxième alliance que nous trouvons, c'est l'alliance avec Noé. Je vous ai mis ici les textes, nous n'allons pas tous les lire, mais juste pour indiquer que cette alliance, elle est déjà indiquée en Genèse 6, donc avant que Noé rentre dans l'arche, et puis une fois qu'il est sorti de l'arche, eh bien, Dieu va formellement établir son alliance. Alors, quels sont les contractants ? Toujours Dieu d'un côté, et puis de l'autre côté, c'est Noé et ses descendants, mais c'est aussi tout être vivant sur la terre. Noé s'était adjoint dans l'arche tous les êtres vivants sur la terre. Et le texte de Genèse 9 indique bien que tout être vivant sur la terre est aussi concerné. Et quelle est la promesse divine ? De ne plus détruire la terre par le déluge. Y a-t-il des conditions ? Pas directement, qui soient fixées dans le texte de Genèse 9. C'est Dieu qui s'engage unilatéralement à dire « Je ne vais plus détruire la terre par le déluge. » Et je en donne le signe par l'arc-en-ciel. Et c'est vrai qu'on est toujours très heureux de voir des arcs-en-ciel. D'abord parce que c'est très beau, et puis ça nous rappelle à nous chrétiens cet engagement qui dure depuis des millénaires de la part de Dieu de ne pas détruire la terre par le déluge. De cérémonial, il n'y a pas eu de particulier cette fois-là, mais on peut noter qu'il y a eu quand même des sacrifices puisque dès que Noé sort de l'arche, il offre des holocaustes et c'est immédiatement après. Le texte s'enchaîne directement. Lisez la fin du chapitre 8, puis le début du chapitre 9 du livre de la Genèse. Vous verrez comme ça s'enchaîne bien. Il y a ces sacrifices qui sont offerts. Et ensuite, Dieu rentre dans cette relation d'alliance qui va durer jusqu'à la destruction de la terre et du ciel, qui aura lieu par le feu et non plus par l'eau, pour introduire les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est fait de temps en temps mention de cette alliance dans différents textes de la Bible, pour dire aussi sûr que cette alliance dure depuis longtemps, aussi sûr, eh bien, je vais m'engager avec vous. On chante parfois ce chant « Quand les montagnes s'ébranleraient », etc. Citation assez directe d'Ésaïe 54, versets 9 et 10, où Dieu montre, base l'alliance future justement sur cette alliance qui existe et qui, nous pouvons le constater tous les jours, est maintenu par sa providence et sa puissance. Alors, quelle application pouvons-nous en faire ? C'est que, dans ce contexte d'alliance, Dieu rajoute quelques stipulations par rapport à ce qu'il avait déjà donné au chapitre 1 et au chapitre 2 de la Genèse, et il redemandera le sang de la main de chacun, de son frère, je redemanderai la vie de l'homme, qui aura versé le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car à l'image de Dieu, il a fait l'homme. Et vous, fructifiez et multipliez, foisonnez sur la terre et multipliez sur elle. Et le chapitre 10 du livre de la Genèse nous montre que ça a été mis en œuvre, puisque le premier roi est mentionné, il s'agit de Nimrod, ce puissant chasseur devant l'Éternel, qui a été le premier roi mentionné dans l'Écriture. Et je ne fais qu'ouvrir des pistes sans du tout les traiter, encore moins les refermer, mais on s'est appuyé sur ces sujets-là, sur ces chapitres-là pour montrer la puissance que l'homme doit exercer sur la création, alors que maintenant il y a quand même beaucoup de débats pour savoir dans quelle mesure la mission de dominer sur la création n'a pas été dévoyée, et certes cela a été, mais dans quelle mesure, après c'est des sujets délicats par l'homme. Donc tout ce mouvement d'écologie chrétienne, donc j'ouvre ce sujet. Et puis on sait que beaucoup s'appuient sur ce texte de Genèse 9 pour justifier le recours à la peine de mort. Là aussi je ne vais pas ouvrir le débat, mais je vous invite juste à ne pas vous contenter uniquement de ce verset pour aborder ce sujet ô complexe et ô combien délicat, mais de tenir compte de l'ensemble de la révélation de l'Écriture et surtout de la novation qu'a apporté le Nouveau Testament en introduisant la grâce en Jésus-Christ. Troisième alliance, c'est l'alliance avec Abraham. Alors là, je vous ai mis un petit graphique parce que c'est un peu complexe, l'alliance avec Abraham, parce qu'il y a plusieurs phases. Et je vous ai mis l'âge d'Abraham. Ce qu'on sait, c'est qu'Abraham a été appelé par Dieu à Ur de Chaldée, à un âge que nous ne pouvons pas déterminer directement de par l'Écriture. En Genèse 12, versets 1 à 3, Dieu a appelé Abraham en lui faisant un certain nombre de promesses qui étaient un peu un prologue à l'alliance qu'il allait traiter avec lui. Abraham s'en va, mais il y a un stop en Charan, au nord du croissant fertile, et ce n'est qu'après la mort de son père que Abraham va se remettre en route pour aller dans le pays promis. Et quand il sort de Charan, en Genèse 12, verset 7, Dieu va réitérer, sous une forme plus concise, la bénédiction qu'il avait déjà prononcée quand Abraham était encore en Ur de Chaldée. Et ensuite, quelques années après un petit aller-retour en Égypte pas très glorieux, eh bien, Abraham va se séparer d'avec Lot, et là encore, Dieu va réitérer des bénédictions sur Abraham. Mais il faut attendre le chapitre 15, la suite de la juste après la victoire sur les rois remportée par Abraham, pour que l'alliance soit formellement contractualisée. Et c'est tout le développement du chapitre 15 du livre de la Genèse, qui est sans doute un des chapitres les plus importants du livre de la Genèse à plusieurs égards. Et Abraham a à peu près 85 ans à ce moment-là. Il va pas très bien comprendre les choses, et puis après il y a l'épisode d'Agar, et juste avant que Isaac soit conçu, donc à l'âge de 99 ans, Dieu va confirmer cette alliance à Abraham en introduisant la circoncision. Et enfin, après la ligature d'Isaac, au chapitre 22 du livre de la Genèse, Dieu va une dernière fois répéter son engagement à bénir Abraham et sa semence. Je passe donc les différents textes, vous les aurez dans le PowerPoint, pour directement arriver ici. Qui sont les contractants ? Encore une fois, c'est toujours Dieu d'un côté, et puis Abraham et sa descendance. Et nous reviendrons sur qu'est-ce que veut dire sa descendance. La promesse, c'est de bénir la descendance d'Abraham et toute la terre par elle, et il n'y a aucune condition initialement. C'est Dieu qui choisit Abraham. C'est pas Abraham qui a dit « moi je suis d'accord de sortir de Calais ». Non, c'est Dieu qui appelle, l'appel de souverain de Dieu d'Abraham. Donc il n'y a aucune condition initialement, mais on voit au chapitre 17 que « marche devant ma face et sois parfait ». Donc pour rentrer dans le bénéfice de l'alliance d'Abraham, eh bien il est nécessaire de marcher devant Dieu. Et le signe en est la circoncision des mâles. Alors, au chapitre 15, il y a un épisode extraordinaire, c'est que dans la grâce de Dieu, Dieu utilise le contexte de l'époque et il demande à Abraham de prendre des animaux. Abraham prend des animaux et puis c'est tout de suite ce qu'il faut qu'il fasse. Il les coupe en deux, alors que Dieu ne lui a rien dit. Il les coupe en deux et ensuite il y a le sommeil qui tombe sur Abraham et il voit une colonne de feu qui passe entre les animaux. Pourquoi ? C'est qu'à l'époque, quand on contractait une alliance, eh bien, en général, chacun apportait des animaux, on les coupait en deux et puis on faisait passer les deux contractants de l'alliance entre les animaux, du genre, histoire de dire que si vous êtes défaillant à votre parole, eh bien, on va vous couper comme on a coupé les animaux. C'est simple. Mais là, vous aurez remarqué qu'il n'y a que Dieu, par ce symbole si fort pour les Israélites qui lisaient la Genèse du livre de la colonne de feu, qui passe entre les animaux. Témoignage extraordinaire de l'inconditionnalité de l'alliance d'Abraham. Et on remarque aussi qu'aucune durée n'est indiquée pour son terme. Alors cette alliance d'Abraham, elle est extrêmement importante parce que c'est la base de la bénédiction des hommes par la foi dans les promesses de Dieu. Genèse 15, verset 6, « Et Abraham crut Dieu, et Dieu le lui compta à justice. » Verset qui est fondamental, Genèse 15, verset 6, qui est repris ensuite par l'apôtre Paul en Romains 4 pour marquer aussi la base de notre justification par la foi. L'alliance avec Abraham est importante, ai-je dit, et il nous faut nous interroger sur sa portée. Tout d'abord, c'est une alliance nationale. C'est la bénédiction du peuple d'Israël, la descendance physique d'Abraham. Et ça, c'est rappelé constamment dans son histoire avec l'origine de sa bénédiction. Par exemple, au début du livre de l'Exode, Dieu se souvint de son alliance avec Abraham et avec Isaac et avec Jacob. Mais ce n'est pas la seule portée. Il y a aussi une portée spirituelle qui fait que la bénédiction de tous les hommes de foi, de tous les temps, de toute nation, sont la descendance spirituelle d'Israël. Paul dira, c'est vous la vraie descendance d'Abraham, la descendance de la foi, pas seulement la descendance physique qui, elle, s'est détournée de Dieu pour une grande partie. Mais ça va encore plus loin. C'est que l'argument de Galates, chapitre 3, c'est que, ultimement, l'alliance avec Abraham débouche sur Christ, qui est la descendance. Et Paul, on sait bien, tire cet argument. Il ne dit pas « et aux descendances » comme parlant de beaucoup ou de plusieurs, mais comme parlant d'un seul, et à ta descendance, à ta semence, qui est Christ. Si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham. Donc finalement, c'est en Christ que nous, dans la nouvelle alliance, en liaison avec lui, qui est la descendance d'Abraham, que nous devenons cette descendance, cette semence d'Abraham selon la promesse. Donc vous voyez ces différentes portées de l'alliance d'Abraham, pour ça qu'elle est si vaste et si importante. Alors quelle application pouvons-nous en faire ? J'ai rappelé ce verset fondamental de Genèse 15, verset 6, cet acte de foi d'Abraham qui a cru l'Éternel et qui l'Éternel lui a compté à justice, ce qui est vrai dans les croyants de tous les temps. Il n'y a personne qui sera sauvé s'il n'a pas fait preuve de foi. La seule base du salut, quelles que soient les périodes, quelles que soient les dispensations, c'est la foi en la révélation donnée par Dieu. Or, le juste vivra par sa foi. D'où les nombreuses citations, allusions ou références à la foi d'Abraham à travers toute l'Écriture. Et nous, on peut appliquer cela pour nous aussi. Nous, nous avons à suivre ce chemin d'Abraham, ce chemin dans la foi pour le salut. Cela nous sera compté à nous aussi. Ce n'est pas pour lui seul, c'est aussi pour nous. Nous qui croyons, alors maintenant nous avons la pleine révélation avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, beaucoup plus qu'Abraham, mais c'est le même type de foi, la même qualité de foi qui est à mettre en œuvre. Et aussi pour l'obtention des promesses. Nous avons ce verset d'Hébreux 6 qu'Abraham, ayant fait preuve de patience, obtint ce qui avait été promis. Et oui, Isaac est né, c'était le fils de la promesse. Mais pour autant, est-ce qu'Abraham a vu la réalisation de toutes les promesses de Dieu ? Loin s'en faut. Il n'a eu du pays qui pourtant lui était promis qu'un tombeau. Et c'est pour cela qu'Abraham a aussi cette foi qui doit être la nôtre dans une espérance future, dans cette cité qui a les fondements dont Dieu est l'architecte, le créateur, espérance dans laquelle va culminer finalement l'ensemble des alliances de Dieu. Quatrième alliance, très importante, l'alliance avec Moïse. Là aussi un peu de chronologie. Il y a deux grands groupes, je dirais. Alors certains, je le sais, distinguent ce qu'ils appellent l'alliance deutéronomique ou l'alliance du pays, etc. Pour ma part, après étude un peu de sujet, il me semble qu'il vaut mieux les voir comme une entièreté, puisque le Deutéronome, c'est un renouvellement de l'alliance, certes dans la perspective de l'entrée dans le pays, mais ce n'est pas une novation, ce n'est pas une nouvelle alliance en tant que telle. Donc il y a plusieurs phases. En Exode 19, Dieu annonce l'alliance lorsque le peuple arrive au pied du mont Sinaï. Ensuite, en Exode 24, il y a la formalisation de l'alliance lors de la lecture publique du livre par Moïse. C'est réitéré après l'épisode du veau d'or. Et enfin, à la fin du livre du Lévitique, on retrouve les conditions qui sont liées à l'alliance. Puis il y a les 40 ans dans le désert, 38 plutôt. Et à la fin, alors que le peuple est sur le point d'entrer en Canaan, il y a un renouvellement de l'alliance en Deutéronome 5 et un renouvellement avant d'entrer dans le pays promis en Deutéronome 29. Donc ces différents chapitres, là aussi comme dans l'histoire d'Abraham, six occasions que l'on trouve, mais qui finalement n'en font qu'une. Quels sont les contractants ? Toujours pareil, Dieu d'un côté, et de l'autre le peuple sorti d'Égypte, mais aussi le peuple issu de lui. C'est dit très clairement, en particulier dans le Deutéronome, que ça concerne le peuple et les générations qui vont suivre. Et quelles sont les promesses de Dieu ? Eh bien, il y a des promesses, des bénédictions temporelles. Bah, tu seras abondance de lait, de miel, de moût, de troupeaux. Voilà, tu seras la première des nations, donc promesse très matérielle. Mais ça va au-delà de ça. Il y a aussi des promesses spirituelles, des promesses qui sont liées à la présence de Dieu. Parce que fondamentalement, ce que Dieu a dit, avant même de donner le décalogue en Exode 19, c'est « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». Retenez cette phrase parce qu'elle est clé pour comprendre ce sujet des alliances. Je vous serai pour Dieu et vous me serez pour peuple. D'où le 75 que nous venons de chanter. Le signe de l'alliance de Sinaï, c'est avant tout le sabbat qui marque cela. On le voit en particulier à la fin du chapitre 31 et puis fin du chapitre 34 de l'Exode, très clairement. Et puis il y a eu tout un cérémonial avec l'aspersion du sang sur le peuple, des sacrifices de taureaux en Exode 24. Et quelle est la durée de cette alliance ? Eh bien, finalement, elle va jusqu'à la venue et à la mort de Jésus-Christ, mais elle est abrogée aujourd'hui. L'apôtre Paul est on ne peut plus clair là-dessus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux est on ne peut plus clair là-dessus. Ce qui vieillit est prêt de disparaître. Mais pour autant, cette alliance a eu une validité et une importance considérable dans toute l'histoire du peuple de Dieu, puisqu'elle était à la base des relations du peuple d'Israël dans tout l'Ancien Testament. Alors, quelle est la portée de cette alliance ? Là, c'est délicat. On touche à un sujet un peu délicat. Parce qu'on a ces phrases, que d'ailleurs Paul reprend, « Celui qui fait ces choses vivra par elles ». Autrement dit, Dieu dit clairement que si on a obéi à la loi, eh bien, on vivra. Ah oui, mais vous allez me dire, tu viens de dire il y a un instant que le juste, il vit deux fois, il ne vit pas d'obéissance à la loi. Ben oui, effectivement, parce que théoriquement, c'est possible, en pratique, c'est impossible, c'est irréalisable. Et le rôle de la loi, c'était, comme le démontre Paul avec on ne peut plus de clarté en Galates 3, c'est de nous conduire à Christ. C'était la démonstration qu'une alliance d'œuvres était incapable de nous donner la vie. Et parce qu'on est des têtus, eh bien, on avait besoin de cette démonstration. Du coup, face à cette différence, quoi, à cette incohérence, d'une part, la loi à accomplir au travers de tous les commandements, hein, celui qui est coupable sur un, il est coupable sur tous. Ben, ça, on n'y arrive pas. Qui n'a jamais convoité ? 10e commandement. Hein ? Levez le doigt ici. Personne. Sinon, vous êtes vraiment des pas lucides sur vous-même. Donc, personne peut être justifié par des œuvres de loi parce que c'est impossible en pratique, parce qu'il y a cette racine du péché en nous. D'où la nécessité d'une abolition et la nécessité d'un dépassement. Néanmoins, ce qui est aussi touchant dans l'alliance, c'est que ce n'est pas simplement une alliance légale, une alliance des œuvres. On voit aussi déjà en germe dans cette alliance sinaïtique l'introduction de la grâce, les sacrifices qui étaient le seul moyen pour que Dieu puisse demeurer encore avec son peuple. Et c'est tout l'argument que tire l'auteur de l'Épître aux Hébreux de ce fameux jour du Yom Kippour, grand jour des expiations, puisque c'était les sacrifices qui permettaient à la grâce de Dieu de continuer avec un peuple qui, de toute façon, avait prétentieusement dit tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons, mais en pratique, juste après, désobéissait. Alors comment, quelle application pouvons-nous en tirer ? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation fantastique. Nous avons le Saint-Esprit en nous et la juste exigence de la loi est accomplie en nous qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Pourquoi ? Parce que ces commandements ne deviennent pas pénibles, ils sont un joug léger parce que nous recevons en Christ la puissance, la capacité, la force d'obéir à ce qui auparavant était impossible. Et nous sommes introduits dans de nouvelles lois, la loi du Christ. C'est quoi la loi du Christ ? C'est le commandement nouveau qu'il nous a laissé de nous aimer les uns les autres, que Paul décline en Galates 6, verset 2, comme porter les charges les uns des autres, et ainsi accomplissez la loi du Christ. Donc nous entrons dans cette nouvelle loi, la loi parfaite de la liberté, de celui qui n'est pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres. Et de quelles œuvres s'agit-il ? Visiter les pauvres et les orphelins, les veuves et les orphelins dans leur affliction, et c'est de s'abstenir du mal. Donc vous voyez, nous sommes aujourd'hui dans ce nouveau monde de l'obéissance par l'Esprit, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la loi, tu ne tueras pas, bien que nous mettrons en pratique, tu ne voleras pas, Paul dira, ben non, au contraire, donner. Enfin, c'est magnifique. La cinquième alliance, c'est peut-être la moins connue. Quand j'ai fait relire mon topo à Anne, elle m'a dit, tiens, celle-là, je vais pas oublier. Alors, je vais vous rappeler juste un peu l'épisode. Il y avait un roi, le roi Balak de Moab, qui voit arriver le peuple et qui commence à avoir très peur. Donc, il fait venir un prophète un peu louche qui s'appelle Balaam. Il y a des histoires avec une ânesse. Et puis, Balaam essaie de maudire, puis ça ne marche pas. Et donc, après, il donne un conseil funeste, mais qui, lui, va malheureusement mieux marcher. Il va dire, tu vas envoyer tes jolies petites filles, et puis elles vont commettre la prostitution avec les fils d'Israël. Et c'est l'histoire de Baal Péor. Et les fils d'Israël font ce qui, donc ils forniquent avec les filles de Moab et les filles des Madianites qui étaient associées aux Moabites pour l'affaire. Et alors, il y a quelqu'un qui, un chef du peuple de la tribu de Siméon qui est là et qui ouvertement prend une Madianite et va coucher dans sa tente. Et Phiné, qui était donc le fils d'Éléazar, le petit-fils d'Aaron, prend une pique, rentre dans la tente et les perce tous les deux et ça arrête la plaie. La plaie s'arrêta de dessus les fils d'Israël. Et ensuite, l'Éternel bénit Phiné et lui donne une alliance dont les termes sont rappelés ici, qui concerne Phiné mais aussi sa descendance, et il lui promet la fonction de prêtre pour toujours par Dieu. Et même dans le millénium, si on retient cette vision des choses, hein, dans Ézéchiel chapitre 44 et 48, il va être de nouveau question de Phiné et de la, à travers de Tsadok, qui est un de ses descendants, de cette bénédiction qu'il va recevoir. Alors, est-ce à dire qu'il y a toujours eu des prêtres descendants de Phiné ? Ben non, aujourd'hui il n'y en a pas. Donc la condition implicite, c'était bien de suivre cette attitude courageuse de Phiné. Mais et ce qui rend cette alliance tout à fait spécifique, à mon avis, c'est qu'elle est motivée par l'attitude ex ante de Phiné. Dieu lui dit bien, c'est parce que tu as été, parce que Phiné a détourné mon courroux, que je n'ai pas consumé les fils d'Israël, c'est pourquoi dit « Voici, je lui donne mon alliance de paix ». Donc, vous voyez, cette fidélité de Finet, qui s'est marquée de façon un peu sanglante à nos yeux, mais enfin, voilà, a été l'occasion pour Dieu de lui donner cette bénédiction. Et ça me permet, en application, juste d'ouvrir aussi une porte, je ne vais pas la développer, mais sur la question de la discipline, qui aujourd'hui est si décriée, on ne veut pas en parler de ça, en particulier de la discipline ecclésiastique. On voit que Finet a une attitude courageuse et puis ça stoppe le problème. Et que parfois, je crois que dans nos églises, on laisse des situations pourrir parce qu'on n'a pas le courage de stopper les problèmes. Alors, on ne va pas haussir les gens concernés, on est bien d'accord. Le Nouveau Testament décrit des étapes qui sont progressives, qui sont prudentes et qu'il convient de ne pas sauter. Et enseigner, avertir, avoir l'œil, fermer la bouche. Et finalement, s'il n'y a plus de remède, mettre dehors. Et tout cela dans un esprit de grâce cohérent avec l'état d'esprit du Nouveau Testament. Mais néanmoins, je pense que ça vaut la peine de rappeler ce point-là, parce que ça me semble parfois un petit peu oublié. La sixième alliance, c'est l'alliance avec David. Les contractants, c'est Dieu, toujours, David et sa descendance. Et quelle est la promesse ? C'est d'établir le royaume éternellement sous sa domination et la domination de sa descendance. Alors, est-ce qu'il y a des conditions ? C'est un petit peu comme pour l'alliance d'Abraham, vous voyez. Il n'y a pas de conditions initialement, c'est Dieu qui s'engage unilatéralement. Mais pour les descendants, il y a quand même marché dans les voies de David pour en bénéficier. Pas de signe de cérémonial ni de sacrifice particulier cette fois-ci, mais et la durée, c'est jusqu'au règne éternel de Christ. Pourquoi ? Parce que, ultimement, qui est le fils de David qui va réaliser cette alliance ? Eh bien, c'est uniquement Jésus-Christ. Salomon était bien parti, la mal finie. Et donc, dès le premier fils direct de David, qui lui a succédé sur le trône, il s'avère que cette alliance aura besoin d'un dépassement dans quelqu'un qui est autrement plus grand que Salomon, comme le Seigneur le dira lui-même, il y a ici plus que Salomon. Donc c'est en Christ, le fils de David, que cette alliance va finalement trouver son terme. Alors là, comme application, j'aimerais juste, pas le temps de lire ce chapitre de Samuel 7, mais je vous invite vraiment à le faire parce que je trouve que c'est une magnifique illustration de quelle doit être notre réaction quand il y a ce sujet des alliances qui nous est présenté, quand il y a ce sujet des bénédictions qui nous sont présentées. Le roi David, il entend ce que Nathan lui rapporte et il rentre, il s'assied devant l'Éternel, il dit « Qui suis-je, Éternel ? Et quelle est ma maison que tu m'as menée jusqu'ici ? Et de bénir la maison de ton serviteur pour l'avenir. Est-ce la manière de l'homme, Seigneur Éternel ? Ah non. Annoncer. Donc on voit ce cœur débordant de gratitude de David devant la bénédiction dont il est l'objet de la part de Dieu. Et nous qui sommes l'objet de tant de bénédictions de la part de Dieu, inscrivons-nous dans la reconnaissance qui est celle de David de la grâce inconditionnelle dont il a été le bénéficiaire. Nous aussi, on a reçu des grâces inconditionnelles, grâce sur grâce. Et est-ce qu'on peut avoir les mêmes accents de reconnaissance ? Et alors, la suite est aussi intéressante parce que David, il rentre dans la réalité de la bénédiction divine en fait en rephrasant ce que Dieu vient déjà de lui donner. À la fin, regardez, « Et maintenant qu'il te plaise de bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle soit à toujours devant toi. » Dieu lui a dit « Je vais te bénir ta maison, elle sera toujours devant toi. » Et David, il prie ce que Dieu lui a déjà donné. Et c'est un moyen pour nous de rentrer aussi dans la réalité de la bénédiction divine. Donc quand on lit le Nouveau Testament, une épître, il y a une bénédiction de Dieu, eh bien on peut rephraser en louange et en prière à l'instar de ce que David a fait quand il a reçu cette bénédiction de son alliance. Nous arrivons à la septième et dernière alliance, la nouvelle alliance. Et là, il faut faire une petite pause sur les textes. Pourquoi ? Parce que cette alliance avait été annoncée prophétiquement en Jérémie chapitre 31, dans un magnifique chapitre. On parlait un peu de Jérémie avec quelques jeunes hier soir. Dans ce magnifique chapitre qui est au centre du livre de Jérémie, d'ailleurs, Dieu annonce prophétiquement que cette alliance, il va faire une nouvelle alliance, non pas comme celle qu'il a faite autrefois. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux est très clair en disant « Je vais faire une alliance pour eux et non pas avec eux ». Je vous invite à souligner au chapitre 8, verset 8 d'Hébreux, « Voici des jours viennent, dit le Seigneur, et je conclurai pour la maison d'Israël et pour la maison de Juda, et non comme l'alliance que j'avais faite avec leur peuple. » avec leur père. Donc ça sera une alliance pour et non pas une alliance avec. Et nous y reviendrons dans un instant. Ensuite, il faut attendre longtemps. Quand Jérémie, vers l'an moins 600, annonce la nouvelle alliance, elle va mettre du temps à arriver. Et il faudra attendre ce soir où Jésus, avant d'aller à Gethsémané et à Golgotha, prend la coupe après le souper et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi. » Et je vous invite à noter que nous trouvons cela dans les évangiles, certes, mais juste par rapport à un petit point dispensationaliste, nous trouvons cela répété par l'apôtre Paul dans un contexte d'église, et s'il y a une épître qui traite de l'église, c'est bien un Corinthien, dans le contexte d'église dans 1 Corinthiens 11, où Paul rappelle que cette coupe est la nouvelle alliance en son sein. En 2 Corinthiens 3, Paul annonce rappelle que Dieu l'a rendu propice pour être un ministre de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. La lettre tue, ça, s'en était bien aperçu pendant 1500 ans. Mais l'esprit vivifie. Et enfin, c'est l'épître aux Hébreux, nous avons déjà lu Hébreux 13, verset 20, qui va développer cette introduction de la nouvelle alliance. Alors, récapitulons, quels sont les contractants? C'est Dieu. Et puis, c'est qui en face? Eh bien, ce n'est pas nous. Parce que l'alliance, elle est pour nous, mais elle n'est pas avec nous. L'alliance, elle est entre Dieu et Christ. Et Hébreux 7, verset 22, nous dit qu'il est le garant de l'alliance. Garant d'une meilleure alliance. Donc, la garantie, elle est en Christ. Et c'est parce que nous sommes associés, nous sommes en Christ, comme nous l'avons vu déjà, nous, la semence d'Abraham, en la semence avec un S majuscule qui est Christ, que nous rentrons dans cette nouvelle alliance. Et on comprend que cette nouvelle alliance, du coup, elle est totalement inconditionnelle. Il n'y a aucune condition. Nous y rentrons juste par la foi dans ce qui est déjà tout fait, dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous recevons toutes les promesses de la nouvelle alliance, les très grandes et très précieuses promesses, selon cette magnifique expression de Pierre, en 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Le don de l'esprit, la vie éternelle, la gloire. On pourrait y passer une deuxième soirée. Donc, c'est vraiment cette alliance, il faut comprendre que nous y rentrons, mais finalement, elle a été faite entre Dieu et l'homme, Christ Jésus, qui en est à la fois le garant et aussi le médiateur. Et le cérémonial, quel cérémonial y a-t-il eu? Jésus l'a annoncé en instituant la scène, c'est son sang, c'est la croix. C'est pour ça que j'ai mis une image de la croix pour introduire cette nouvelle alliance, parce que c'est la base de cette alliance, ce cérémonial, c'est le sacrifice que Jésus-Christ a fait de lui-même pour introduire désormais cette alliance éternelle dans laquelle nous sommes, qui est l'aboutissement de toutes les alliances précédentes qui toutes, plus ou moins, finalement pointaient vers cette septième et dernière alliance. Et c'est pour cela que, par le baptême, ponctuellement, par la scène régulièrement, nous rappelons cette alliance que Dieu a établie entre lui et Christ, au bénéfice de laquelle nous sommes, dans laquelle nous entrons, nous qui devenons désormais le peuple de Dieu. Alors, pour qui est cette alliance? Vous me direz, mais oui, mais moi j'ai lu dans Jérémie, puis j'ai lu dans l'Épître aux Hébreux, que c'est pour la maison d'Israël, la maison de Juda. Moi, je ne suis pas juif, donc est-ce que c'est que pour moi? Alors, ça, c'est une question délicate. Il me semble que, dans le contexte dans lequel vivait Jérémie, c'était difficile pour lui d'imaginer l'ouverture que allait introduire la nouvelle alliance. On voit combien dans l'Épître aux Hébreux, ça a été difficile pour les Juifs de comprendre que ça s'ouvrait, que ça s'ouvrait, que ça s'ouvrait. Alors aujourd'hui, l'alliance, elle est pour les croyants, pour les chrétiens. Sinon, je ne comprends pas Hébreux chapitre 13, verset 20, par exemple, entre autres. Je ne comprends pas pourquoi Paul rappelle ça dans une épître qui s'adresse à l'Église, pourquoi il dit qu'il est lui-même ministre de la Nouvelle Alliance, alors que son ministère, c'est pour les païens, etc. Beaucoup d'éléments qu'on peut mettre qui convergent dans ce sens. Et demain, par contre, ce sera élargi au peuple d'Israël quand il sera retourné à Dieu et quand l'Esprit aura opéré de façon réelle dans son cœur. Donc cette nouvelle alliance, elle est avant tout spirituelle, mais on peut penser, divers textes de l'Ancien Testament nous y conduisent, qu'elle est également matérielle pour Israël et les nations pendant le millénium. Hébreux 8, versets 10 à 12, nous donne quatre bénédictions de la nouvelle alliance. Le pardon des péchés, une relation personnelle directe avec Dieu, la communion avec Dieu et la loi écrite dans le cœur. Nous avons déjà vu un peu le dernier dans l'application que j'ai faite tout à l'heure. Je veux dire juste un mot de la deuxième, la relation personnelle directe avec Dieu, de la communion avec Dieu. Parce qu'à la fin du chapitre où Paul se déclare ministre de la Nouvelle Alliance, il y a ce si beau verset, « Nous tous contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. » Dans les alliances précédentes, c'était des communications ponctuelles, c'était des communications médiatisées. Il y avait des sacrificateurs, il y avait des voiles, il y avait tout un tas de choses. Aujourd'hui, nous avons cet accès direct par la foi, par l'Esprit qui est en nous, et nous pouvons contempler Jésus-Christ et être transformés progressivement en son image spirituellement. On vit une époque formidable. C'est magnifique d'être dans cette nouvelle alliance. Il est temps d'arriver à la synthèse. Alors, je vous ai fait un petit graphique. J'espère que ce n'est pas trop compliqué à comprendre. Alors, ici, vous avez l'alliance avec Adam, l'alliance des œuvres. Elle commence dès le départ et elle continue jusque dans l'éternité, puisque malheureusement, ceux qui en resteront là, eh bien, seront du mauvais côté, éternellement. L'alliance avec Noé englobe toute l'humanité, mais s'arrête à la fin du millénium, avant l'introduction des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. L'alliance d'Abraham, initialement confinée au peuple d'Israël, s'élargit aujourd'hui dans une alliance spirituelle et introduit une bénédiction éternelle. L'ancienne alliance, la quatrième, l'alliance du Sinaï, de Moïse, elle continue, ne concerne que le peuple d'Israël et s'arrête quand la nouvelle est introduite. Et les alliances de David et de Finé, elles, sont plus en pointillées et finalement aboutiront dans le millénium. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est cette nouvelle alliance qui finalement va emporter toutes les autres dans un sens, in fine. Et au bout, vous voyez que dans l'état éternel, il ne reste que deux alliances, la nouvelle et celle initiale en Adam. Et c'est la deuxième synthèse que je vous propose sur les conditionnalités. J'ai indiqué tout à l'heure en introduction qu'on pouvait rapprocher ça du sujet des œuvres et de la grâce, ou de la loi et de la grâce. Et ici, je vous ai mis des rubans colorés. Donc, quand c'est en noir, c'est une alliance d'œuvres. C'est typiquement l'alliance avec Adam. La nouvelle alliance, c'est une alliance que de grâce. Et les alliances entre les deux ont des caractères à la fois de l'un et de l'autre. Typiquement, vous rappelez l'alliance d'Abraham, c'est une alliance inconditionnelle, Dieu le bénit inconditionnellement, mais marche devant ma face et sois parfait. Vous voyez, il y a aussi cette alliance, cette partie d'œuvre qui est introduite. Et on voit que finalement, pour qu'il y ait la synthèse, que tout cela aboutisse, il faut arriver à cette nouvelle alliance, il faut arriver à Jésus-Christ, en qui tout cela converge. Puisque c'est la descendance d'Abraham, puisque c'est celui qui prend la malédiction de la loi sur lui, c'est celui qui est le sacrificateur par excellence, c'est celui qui est le fils de David et qui introduit cette nouvelle alliance. Le but des alliances de Dieu, c'était qu'il puisse habiter avec l'homme et que l'homme puisse habiter avec lui. C'était déjà le souhait de Dieu au jardin d'Éden qui a été si vite cassé par l'introduction du péché. Dieu n'a plus pu se promener dans le jardin avec l'homme, il a dû chasser l'homme du jardin. C'était le début de la ruine. Mais Dieu ne va pas laisser les choses en l'état. Et c'est le magnifique développement de ce magnifique livre, des 66 livres de la Bible, qui va finalement aboutir dans cette vision d'Apocalypse 21, verset 3. Il n'y a pas le terme d'alliance, mais il y a ce qui en fait la substance, cette habitation de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Alors, quand on arrive à la fin de ce développement extraordinaire des plans de Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut admirer la sagesse de Dieu et s'exclamer comme l'apôtre, et je termine par là, « Ô profondeur des richesses et de la sagesse de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier lui sera rendu, car de lui... et par lui et pour lui sont toutes choses. À lui soit la gloire éternellement. Amen.